sur les chemins de la création. Une émission proposée par Clémentine Savine.
Je crois qu'un artiste, c'est quelqu'un qui a mal aux autres. Il y a ceux qui n'apportent rien du tout. Il y a ceux qui apportent seulement leur métier. Et puis il y a ceux qui apportent leur propre univers.
On exprime les choses que les gens auraient du mal à exprimer de cette façon aussi intense.
Comment ils ont fait pour arriver à faire ça?
On crée, on transforme, on modifie, on jette tout, on recommence.
Ça, c'est la spécialité des gauchos bobos. Ils font de la merde et ils te disent que c'est de l'art.
C'est ça, être artiste.
Ça me met une pression assez conséquente.
C'est quelqu'un qui sort quelque chose à partir de rien.
Bonjour, c'est Clémentine, bienvenue sur les chemins de la création, l'émission hebdomadaire où, comme son nom l'indique, nous parlons de création. Et comme d'habitude, je reçois deux artistes et aujourd'hui je suis avec Émilie Limier, chanteuse, compositrice, interprète, coach vocal et chef de chœur. Et Antonio Rodriguez Yuste, qui touche à tout, peinture, poésie et spectacle. Émilie, c'est la chef de chœur de mon groupe de gospel. Elle a une énergie incroyable. Elle est capable de tenir un chœur de plus de 40 personnes à bout de bras. Une magicienne qui gesticule. Elle nous entraîne dans la musique avec une classe sans limite. Antonio, je ne le connais pas. Je suis entrée par hasard dans son atelier partagé Interférence. Y a-t-il vraiment un hasard? J'ai été stupéfaite, épouvantée et renversée par son travail sur la guerre. Je me suis dit, enfin un qui a les couilles de l'ouvrir. Ça m'a plu. Nous voilà ensemble dans les studios de Divergence. Bonjour Émilie et Antonio.
Bonjour.
Bonjour Clémentine.
Comment ça va? En forme?
En forme.
Ouais.
Vous êtes prêts à parler de ce sujet qui nous rassemble, la création?
On va essayer.
C'est parti.
Alors moi, ce que j'aimerais savoir en premier, c'est quand est-ce que ça arrive dans vos vies, la création, en fait?
Moi, c'est souvent assorti de moments avec des émotions fortes. Pour moi, ça a toujours été une forme d'exutoire. Et donc, c'est souvent un besoin d'extérioriser des émotions. Après, je le fais aussi par le chant, mais c'est souvent quand on vit des choses difficiles ou quand on est confronté à... ça peut être des thèmes d'actualité qui nous touchent et dont on a envie de parler. Et puis, et voilà, c'est un besoin d'exprimer, de mettre des mots. Et des jolis mots, de faire quelque chose de beau avec quelque chose qui fait mal ou qui préoccupe. Et puis voilà.
Et du coup, est-ce que tu sais, est-ce qu'il y a dans l'historique, dans ta vie, dans ton enfance, est-ce qu'il y a un moment où tu te mets à créer et tu le conscientises ou c'est vraiment... comment ça marche?
J'ai une histoire incroyable à ce sujet. Tout a commencé avec la flûte à bec. En fait, je crois que j'ai toujours écrit des textes. Je crois que c'était d'abord des textes petites. Je ne saurais pas dire à quel âge j'ai commencé. Et quand en sixième, on commence à faire des cours de musique, moi, je jouais. J'ai pas fait de solfège. Je jouais pas d'un instrument. J'avais chanté dans une chorale, mais je faisais pas d'instrument. Et on met dans mes mains une flûte à bec, truc incroyable qui permet de faire des notes. Et je me suis mis comme ça à faire des compos à la flûte à bec, à m'amuser à faire des assortiments de notes et d'essayer de voir si ça pouvait matcher avec les textes que je faisais. Et c'était évidemment des trucs d'enfant de sixième. Mais voilà, je crois que c'est parti de là.
Génial. Et toi, Antonio, à quel moment la création entre dans ta vie?
Je ne sais pas si je pourrais le dater. Je ne sais pas si j'ai... Ouais. Je sais que les mots m'ont toujours intéressé, ouais. C'est plus par le mot. Plus par le mot que par je sais pas, par la musique ou par le dessin, mais au départ, ça a été le mot. Alors après, est-ce que c'est le fait d'avoir justement eu un rapport au langage différent, parce que j'avais à la fois la langue espagnole de mes parents et le français? Est-ce que ça, ça m'a amené à m'intéresser plus aux mots. Je sais pas. Disons, je pars du principe que j'ai écrit avant de les mettre sur le papier, peut-être même dans ma tête, en te baladant, je vivais dans un tout petit village du Loiret, et c'est des lieux où souvent l'après-midi il n'y avait pas grand chose à foutre. Donc tu marches, tu te balades, et puis en fin de compte tout ça, ça te donne des images. Et puis avec ces, tu les as dans la tête, tu les as en toi, ils sont là. Donc tu vis avec le hasard, enfin quand on te parlait du hasard, donc tu vis avec ce hasard là et puis il y a des choses qui se construisent, puis à un moment donné pourquoi, j'en sais rien, mais à un moment donné tu les poses sur le papier, voilà, ouais, tu commences à le poser sur le papier un peu, mais ça c'est arrivé assez tard, moi.
Ouais, dès que tu as été en capacité d'apprendre à écrire à l'école, tu as posé tes premiers mots ou après?
Non, bien plus tard, je pense que c'est vers l'âge de 20 ans, on va dire, à peu près. J'ai commencé à écrire vraiment des textes, des poèmes, des choses comme ça. Ouais. Ouais. Et pendant longtemps, le mot, c'était très professionnel. C'était pour le boulot, je devais rendre des rapports, des trucs. Ouais. Voilà, c'est pas pareil.
Et, ouais. Et du coup, quels sont les sujets qui sont venus spontanément, que tu as eu besoin d'écrire, ou est-ce que tu te souviens
Moi, j'ai toujours écrit sur l'humain, sur la relation, sur les liens. Oui, j'ai toujours écrit là-dessus, sur la différence, sur ce qui pouvait, par exemple là, par rapport à la guerre, c'est ce qu'on sent. À un moment donné, à une époque donnée, on va dire, il y a des choses qu'on sent plus, qui sont là, et on a besoin de les poser sur le papier. Moi, ça marche comme ça. Un truc sur la guerre, c'est parce qu'à un moment donné, il y a eu tous ces événements et tout ça te dépasse. Et parce que ça te dépasse, tu as besoin de le poser sur le papier. Et tu as besoin de... tu as besoin de donner ton avis. Tu donnes ton avis. Tu t'impliques. Tu es obligé de le faire. Tu es obligé de porter ça.
Il y a une certaine nécessité, du coup, à mettre des mots ou de la musique sur ce qu'on ressent. Quelle est la place de la nécessité? Est-ce que au quotidien c'est nécessaire pour vous? Est-ce que ça va être dans des moments très précis? Est-ce que c'est en lien avec vos rythmes de création, cette nécessité d'ailleurs?
Moi, je pense que ça va être, pour ma part, ça va être lié à des moments de pause. C'est vrai que c'est souvent... J'arrive chez moi, je me gare avec je gare ma voiture, je suis dans ma voiture, et puis il y a ce moment-là où ça y est, on conduit plus, on est garé et on va se mettre en action pour rentrer chez soi. Et puis des fois, voilà, ce moment-là où d'un coup on se met à penser à des choses de la journée ou à des émotions, et puis il y a des mots comme ça qui se mettent, et puis hop, on se met à réfléchir, et puis ça fait des phrases, et puis hop, on écrit, et voilà, ça part d'un moment où on est un peu en suspens comme ça, et où il y a de la place pour la création, ou alors un moment où on fait quelque chose de machinal, comme faire la vaisselle, ou conduire un trajet quotidien où on est en pilote automatique, et là le cerveau il peut arrêter d'être en mode robot du quotidien et de laisser la place à quelque chose qui arrive. Et savoir l'accueillir, du coup. Savoir l'accueillir et se dire, ok, je note ce qu'il y a, ce qui vient, et puis je verrai ce que j'en fais après, quoi.
C'est quand t'es pas dans l'action.
Ouais, c'est ça.
Et c'est là où il y a l'espace de création qui peut s'ouvrir pour toi.
C'est ça.
Yes.
Ça peut être aussi... Moi, je fonctionne un peu comme ça aussi. Mais avec quelque chose qui s'impose. C'est-à-dire, à un moment donné, le mot, il vient, ou la phrase vient, elle arrive, et elle s'impose, et il ne faut surtout pas la rater.
Oui, c'est ça. C'est ça, ça arrive comme ça, sans prévenir. Ouais. D'un coup, il y a un truc qui arrive, et se dire, ok, ouais. Je note, et puis ça se trouve, j'en ferai rien, mais sinon... Ouais.
Sinon, on la perd. On la perd, et on peut passer beaucoup de temps à essayer de la retrouver, on ne la retrouve jamais. Ouais. On ne la retrouve pas. Pourtant, c'était celle-là qu'on voulait, mais on l'a perdue. Ça peut te sortir d'une d'une conversation avec quelqu'un, t'es en train de parler avec quelqu'un, et à un moment donné, ça trotte toujours dans la tête.
C'est ça, c'est un peu Gilles de la Tourette de l'auteur, quoi.
Ouais, c'est là-dedans, ça trotte, et puis ça dit... Faut que tu l'écrives, quoi.
Ouais. Sinon... Ouais, c'est plus fort que nous, quoi.
C'est ça. C'est ça. Après, moi, ça m'est arrivé de devoir créer sur demande.
Oui.
Et ça, c'est un autre travail. Et j'ai trouvé que c'était super intéressant. Enfin, je ne sais pas si c'est le moment de dire ça, mais...
Ah, si, carrément.
C'est toujours le moment.
C'est toujours le moment.
Donc, par ailleurs, dans toutes mes activités, j'ai un spectacle qui aborde le thème des violences conjugales. Et donc, pour ce spectacle-là, on est deux, avec Sandrine Silk-Musel, qui travaille avec moi. Et on a toutes les deux écrit les chansons, composé les chansons. Et c'est un spectacle, en fait, avec de la musique et du théâtre, qui alterne des chansons et des petites scénettes. Il y a toute une histoire comme ça, avec des chansons qui viennent illustrer l'histoire. Et donc, on a écrit ensemble le spectacle en entier. Et c'est parti, cette idée, parce que pareil, c'est une idée qui arrive. Donc, on s'est rendu compte qu'on avait toutes les deux, chacune de notre côté, une chanson qui abordait ce thème-là, des violences. Donc, on s'est dit, ça serait cool d'en faire quelque chose, parce qu'on a l'impression que ça impacte les gens. Et donc, du coup, il a fallu construire un spectacle autour de ça, et il a fallu écrire des chansons pour ça. Et j'ai trouvé que c'était intéressant aussi, du coup. Et là, il faut s'autoriser, recréer cette possibilité-là de laisser de la place au cerveau et de repartir.
Et du coup, ça se passe comment? Est-ce que tu te mets en état de, comme quand tu es dans ta bagnole et que tu as des phrases qui te viennent, où tu te mets sur table et tu te dis, OK, là, faut pondre quelque chose pour le spectacle ou comment tu doses
Le départ, c'était un peu ça. C'est bon, allez, je suis une élève sérieuse, je me mets à mon bureau, il faut pondre quelque chose. Mais après, je me suis dit, bon, j'ai envie que ça sonne comment? Donc du coup, je suis allée écouter un peu des musiques, parce que il fallait que je commence par le morceau d'ouverture du spectacle. Donc il fallait que ça soit quelque chose de dynamique, il fallait que, que ça aborde à peu près l'entièreté des messages du spectacle. Donc, je me suis dit, bon, je veux que ça sonne comment pour que ça m'aide à avoir déjà un premier cap.
Ouais, en partant de l'énergie du spectacle.
C'est ça, je veux quel genre de pulse, quel genre de tempo, quel genre de style. Donc, je dis, bon, allez, on part sur un truc un peu soul, groove. Et puis, je crois que j'ai d'abord joué des trucs au piano, pour aller avec un peu le groove que j'entendais. Et après, une fois que j'avais un truc qui sonnait sympa, après, c'est ça, on met le truc en écoute, et puis on laisse libre, et puis il y a quelques mots qui viennent, et puis après, plus rien. Alors, on va qu'à nos occupations, on reprend la voiture, et puis hop, ça revient. Donc vite, on prend le dictaphone. Alors, là, 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 là. Et voilà,
c'est un peu ça. On enclenche une machine. Ouais, souvent, c'est ça. On enclenche une machine.
Mmh, ouais, ouais. C'est ça.
Toi, Antonio, tu as été confronté à ça aussi avec la création avec une contrainte, une commande ou...
On m'a demandé d'écrire à un moment donné un spectacle sur les arbres.
Ouais.
Donc, ce qui s'est passé, c'est que...
J'adore
souvent,
les arbres.
Je pensais comme ça. souvent, je pensais comme ça. Je vais chercher de l'info. Beaucoup d'infos sur le thème. Et après, de cette info, je vois ce qu'elle me renvoie à moi et comment, avec mes mots et mes sensations à moi, je peux retranscrire des idées sur des arbres, des textes sur des arbres. Voilà. Mais par rapport à ce que moi, je ressens, mais je vais chercher l'info. Je vais toujours chercher de l'info. Ça, ouais.
C'est comme si tu allais te nourrir et puis après, là où ça te fait écho, tu peux régurgiter la chose à ta sauce. Quoi.
Ouais, c'est ça.
Ok.
C'est ça. Sur les arbres, à un moment donné, on m'a demandé aussi d'écrire un spectacle sur les monstres. Si. Donc là, c'est pareil. Je vais chercher de l'info, mais je ne vais pas chercher de l'info sur les monstres. Je pars de l'idée que les monstres, ce n'est pas ce qu'on voit, ce n'est pas ce qu'on croit, c'est les autres, c'est d'autres. Ce n'est pas ceux qui ont des sales gueules.
Mm.
Ils sont ailleurs et c'est... Donc tu fouilles, tu restes toujours vigilant en fin de compte. Tu es toujours en attente, Tu bouffes pas de l'info en permanence, mais tu regardes, tu sens, tu lis des choses, tu... Et avec tout ça, tu imagines, quoi. Avec tout ça, ça te nourrit, oui, ça te nourrit et ça t'amène à... Moi, ça m'amène à écrire, à peindre. Enfin, si je reviens aux choses de la guerre, donc j'écris sur la guerre en fonction des événements, mais après, quand je peins, eh ben, je reste proche de l'écriture, puisque dans l'étoile, c'est souvent c'est du trait. C'est du trait, et pour pouvoir faire ressentir l'absurdité de la guerre, souvent, les personnages que je représente sont des personnages assez... c'est des ubus, on va dire. C'est des soldats absurdes. Voilà. Donc, réussir à chaque fois s'imprégner et réussir à trouver un moyen de dire ce qu'on sent. Voilà, ce qu'on ressent. Alors après, chacun ses jouets, quoi. C'est un peu déjoué, quoi. Chacun a ses outils, c'est ça.
Ouais, on a plein d'outils. Et ben justement, j'en ai un dans les mains. Alors, je vais essayer de vous parler de cet outil que j'ai dans les mains. C'est un petit outil en papier qu'on faisait beaucoup quand on était petit dans la cour de récré. Moi, j'appelais ça une salière. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, ou d'autres gens disaient des cocottes, je crois.
Ouais, moi, je disais cocotte.
Ouais. Et alors, voilà, j'en ai fait une toute petite, parce que j'ai, à minuit, si vous voulez tout savoir, à minuit, la veille de cet enregistrement, j'ai repensé à cet objet en origami, là, qu'on peut manipuler. Donc, ça ressemble un peu à une espèce d'étoile à quatre branches. Et on demandait donne-moi un chiffre, 1, 2, 3, 4, 5, et choisis un symbole ou une couleur. Bon, là, j'ai fait des symboles. Et ensuite, il y avait un petit message, on soulevait, et derrière le symbole se cachait un message. Des fois, on n'était pas tendre, on mettait des choses horribles quand on était petit, ou des choses très belles, c'était un peu extrême dans mes souvenirs d'enfance. Bref, je vous ai fait une petite salière cocotte. Et dans cette salière cocotte, il y a des mots. Et je vous propose de jouer avec moi, découvrir un mot qui se cache. Émilie, tu veux commencer?
Allez.
Allez, donne-moi un chiffre.
3.
1, 2, 3. Quel symbole choisis-tu?
Je vais prendre l'escargot.
L'escargot spirale.
Ouais.
Allez. Et en dessous, il y a le mot vérité. Mm-hmm. Est-ce que... le mot vérité, en rapport avec ta créativité, te parle? Est-ce que tu aurais des choses à nous dire comme ça, spontanément? Est-ce qu'il y a de la vérité dans ta création?
Bah, toujours. Toujours, parce que ce qu'on crée, c'est quelque chose qui vient de nous, qui vient de nos ressentis. Et à partir du moment où c'est nos ressentis, c'est forcément notre vérité. Après, voilà, la question, c'est quoi la vérité?
Ouais, c'est très, très philosophique.
Ouais. C'est ça.
En tout cas, ta vérité à toi...
C'est ça. En tout cas, moi, chaque mot que j'écris, c'est toujours quelque chose de sincère, qui vient du cœur et qui est vrai. Ouais.
Du coup, la vérité, ce serait quand ça vient du cœur. Finalement, il y a peut-être un peu de ça.
Ouais.
Ouais. Super, merci. Allez, Antonio, tu veux jouer avec moi, à la salière cocotte aussi, que je galère à déplier, parce que je l'ai fait toute petite. Hop là, je l'ai. Et donne-moi un chiffre.
5.
1, 2, 3, 4, 5. Ah, tu tombes sur la même face.
Je vais prendre le carré.
Le carré. Qu'y a-t-il sous le carré? Il y a le mot rage.
Le mot rage?
Le mot rage. Est-ce que ça te parle, le mot rage, la rage?
Ouais, ça me parle bien, la rage.
Ça t'évoque quelque chose?
Si, ça me parle bien par rapport justement au monde dans lequel on vit. Oui, le monde dans lequel on vit actuellement, je pense qu'il réussit à faire beaucoup d'enragés. On est dans un monde où on crée beaucoup d'enragés. Et moi, dans ce que je défends, dans les textes, il y a quelque chose qui est proche de la rage. Oui. Mm-hmm. On est proche dans une quête justement actuellement de ressortir ces slogans de la fin de la Première Guerre mondiale, maudite soit la guerre. Mmh. Ouais, on est dans de la rage parce qu'on a l'impression de mais qu'est-ce qu'on a appris ? Qu'est-ce qui se passe ? On est en 2024 et puis on a l'impression de rétrograder, de
que
revenir.
L'histoire se répète
alors qu'on connaît tout ça. On n'a rien appris, on recommence. Qu'est-ce qui se passe ? Et ça nourrit la rage.
Et du coup, cette forme de rage te donne envie de travailler sur ce sujet et d'aller plus loin, d'aller chercher.
Oui, ça me pousse à ça. Ça me pousse à continuer et à essayer de faire en sorte que ces textes, soient entendus. Je bataille en ce moment pour que ces textes-là soient dispensés, envoyés, écoutés le plus possible et dans des lieux, dans tout type de lieux. C'est-à-dire aussi bien dans des lieux qui sont reconnus pour des spectacles que des lieux où régulièrement à l'atelier on fait des performances, on convoque des gens sans se poser la question de on a des moyens, on n'a pas de moyens, tout ça. Non, il faut que ça existe. Mm-mm. Il arrive un moment où il faut que ça existe. Parce que notre place, elle est là. Elle est de faire exister ces choses-là. On ne peut pas attendre. C'est là, c'est maintenant. Et ça, c'est une rage constructive, je pense.
C'est vrai. Et si je peux rebondir sur le thème de la rage et de la colère, ce qui est chouette avec l'art, moi, par exemple, ma personnalité, j'ai un peu du mal avec cette émotion-là. J'ai du mal à m'autoriser à être en colère. Pourtant, la colère, c'est quelque chose de... Enfin, c'est juste une émotion et qui peut être hyper constructive parce qu'elle vient donner une énergie, quoi. Donc, le tout, c'est d'arriver à la canaliser. Et justement, l'art, c'est quelque chose qui permet ça, en fait, je trouve. D'être un peu un exutoire à des émotions qu'on ne s'autorise pas forcément à vivre. Pour certains, ça peut être la tristesse, pour d'autres, la colère. Enfin, voilà, il y a plein d'options. Et au final, dans l'art, il n'y a pas d'objectif. Pour certains, c'est un métier. Il y a du coup un objectif de visibilité ou de aussi pouvoir rentrer de l'argent avec ça parce que ça demande du temps et parce que, comme tout le monde, on est des êtres humains et qu'on a des factures à payer. Mais l'art, c'est quelque chose qui est accessible à tous. Et écrire une chanson, on n'est pas tous obligés d'écrire une chanson pour Céline Dion. Mmh. On peut écrire une chanson juste pour soi ou pour ses enfants, et juste parce que ça nous fait du bien et parce que peut-être ça peut nous permettre de venir extérioriser une émotion, de la colère par exemple, dans mon cas. Et du coup, c'est chouette quoi, comme exutoire,
ouais.
Et comme possibilité.
Oui, parce que c'est un espace, l'espace artistique, c'est un espace où on a le droit. Il y a un cadre artistique et dans ce cadre-là et cet espace-là, j'ai le droit de me servir de ma colère, de faire un personnage au théâtre, un peu psychopathe. J'ai le droit de...
C'est ça.
On a le droit de... C'est un espace qui est magique pour ça. Et
puis on est quand même dans un pays où on a le droit.
Exactement.
D'utiliser cette liberté-là. Et ça, c'est important aussi de le rappeler, qu'on peut le faire.
Et on s'en saisit.
Mais ouais.
Allègrement.
On peut le faire. Parce qu'il y a des endroits où on ne peut pas le faire.
Ouais.
Et ça, il ne faut pas l'oublier, quoi, aussi.
Voilà. Ouais. Donc profitons-en. Bon. Créons.
Voilà.
Notre rage et notre vérité. Si vous deviez me dire, qu'est-ce que c'est être un créateur pour vous ? Qu'est-ce que ce serait ?
C'est une bonne question.
Sachant qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, on a le droit de penser différemment demain. C'est là ce qui nous traverse. Si quelque chose vous traverse à propos d'être un créateur, qu'est-ce que c'est ?
Créateur, je dirais, c'est matérialiser une idée.
Yes.
Parce qu'on peut créer... parce que le mec qui est maçon et qui construit une maison, c'est un créateur.
Mm.
Donc il y a une idée à la base et puis hop, on vient du coup chercher dans la matière des choses pour matérialiser cette idée. Je pense que c'est valable pour tous les arts.
Mm. Et puis... aller chercher du coup le maçon, il va aller chercher des techniques. Ah bah tiens, si je mets du torchis avec un parpaing, bon bah là ça fait pas bon ménage, mais si je mets ça avec un morceau de bois, ah ça tient, ah ça évolue comme ça dans le temps. Et oui, en effet, c'est il y a ce que tu dis, ça m'évoque la notion de construction et de temps aussi.
Ouais.
Que ça se construit.
Et ouais, moi je trouve ça incroyable. Alors moi j'ai le prisme de la musique, mais je trouve ça incroyable ce truc de j'ai quelque chose que j'entends dans ma tête, j'entends une mélodie, j'entends des mots, j'entends une musique, et par une action physique, je vais arriver à sortir ça de ma tête et à le rendre audible par d'autres. Mmh. Et je trouve ça incroyable. Et ça va être pareil pour de la peinture ou pour du théâtre ou... Et je trouve ça incroyable.
Ouais. Bah, c'est exactement pour cette raison que j'ai eu très, très envie de parler du processus de création et de faire cette émission. Toi, Antonio, être un créateur pour toi, qu'est-ce que ce serait ?
Moi, c'est plus... on va dire, voilà, c'est me lever, aller à l'atelier, avoir cette routine-là et... en espérant à chaque fois tomber sur quelque chose qu'on n'a pas prévu. Quelque chose qui nous tombe dessus, quoi.
L'accident.
Voilà. Ouais. C'est convoquer l'accident aussi. C'est aussi ça.
C'est joli.
Ouais. C'est ça. Parce que moi, je cherche quelque chose. C'est compliqué. Je cherche quelque chose. Je ne sais pas ce que je cherche. Mais je cherche quelque chose. Si je le sais à l'avance, ce que je vais écrire ou ce que je vais dessiner, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ce qui m'intéresse, moi, c'est si je me pose devant une toile, je sais qu'il va y avoir des personnages. En ce moment, je sais qu'il va y avoir des personnages, mais je ne sais pas quel personnage. Et c'est ça qui est intéressant. Et dans l'écriture, c'est pareil. Je sais qu'il va y avoir des mots, mais des fois, il y a des associations de mots que je n'avais pas prévues du tout. Qui s'impose. Et c'est là où ça devient presque grisant. Ouais. Ouais. Là, ça peut être... d'être surpris par soi.
Super. Voilà. Eh bien, on va finir avec le petit mot de la fin, que j'aime beaucoup finir comme ça. Si vous deviez donner un mot, un seul, pour... illustrer votre rapport à la création, ce serait quel mot ?
Je dirais magie.
Magie, yes.
Moi, je dirais l'acharnement.
L'acharnement, waouh ! Ah, bah, c'est super. Là. Si on met un peu de magie et un peu d'acharnement, tout est possible.
On est bon.
On est bon. Ouais. Super, bah, merci Émilie et Antonio pour ce moment ensemble à parler création. Et merci aussi à Alice Rollet à la réalisation. Et on se retrouve très vite pour le prochain épisode de Sur les chemins de la création. À tout bientôt. Sur les chemins de la création, une émission proposée par Clémentine Savine.
Je crois qu'un artiste, c'est quelqu'un qui a mal aux autres. Il y a ceux qui n'apportent rien du tout, il y a ceux qui apportent seulement leur métier. Et puis il y a ceux qui apportent leur propre univers.
On exprime les choses que les gens auraient du mal à exprimer de cette façon aussi intense.
Comment ils ont fait pour arriver à faire ça ?
On crée, on transforme, on modifie, on jette tout, on recommence.
Ça c'est la spécialité des gauchos bobos. Ils font de la merde et te disent que c'est de l'art.
C'est ça être artiste, ça met une pression assez conséquente.
C'est quelqu'un qui sort quelque chose à partir de rien.